C'est pour soutenir ce que vient de dire Sakina, c'est que les femmes, quand pour les manifestations pour l'indépendance de l'Égypte, après la première grande guerre mondiale, elles ont investi la rue, elles sont descendues voilées dans la rue. À cette époque-là, elles étaient encore voilées. Les musulmanes, enfin les chrétiennes. Les chrétiennes mm-hmm. s'étaient déjà dévoilées. Mais les musulmanes sont descendus, les musulmanes et les chrétiens sont descendus dans la rue. Ça, c'est un souvenir qui reste dans l'inconscient collectif. Ce temps où on a fait barrage aux Anglais et au désir des Anglais de séparer entre chrétiens et musulmans et d'avoir fait front commun et d'être descendus dans la rue avec des drapeaux qui représentaient le croissant, symbole de l'islam, qui embrassait la croix, symbole du christianisme. Et c'était le parti Wafd. Et jusqu'à présent, ça reste un des désirs, une nostalgie dans l'inconscient égyptien s'il est bien représenté par des gens qui ont beaucoup de dynamisme, pourrait vraiment remporter la majorité en Égypte. Parce que une tendresse réciproque, je dirais, entre les deux religions. Il n'y a pas vraiment une haine, ça n'existe pas. On se respecte. Moi ici, je sens que je représente aussi bien le christianisme que l'islam en Égypte. Et beaucoup de gens, et nous sommes tous à nous enlacer, à nous dire, mais ça n'a jamais existé entre nous. Et voilà, ce sont les femmes qui ont commencé ce mouvement, qui ont été très très fortes dans ce mouvement-là.
Et puis moi, sans parler des grands noms, des grandes femmes, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai été élevée dans une famille très tolérante, c'est que j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui s'est battue pour que ses filles aillent à l'école. Et pour moi, c'était un acte féministe. Et puis ma mère a eu droit d'aller à l'école, à lire et à écrire, et à être infirmière et sage-femme. Donc... J'ai vécu au milieu de femmes qui savent lire et écrire et qui, dans le quotidien, qui se battent pour la survie du quotidien. Alors pour moi, l'image de la femme voilée soumise, c'est la femme qui est là, qui ne fait rien. Alors que même si elle est voilée ou soumise, en fait, il y a un combat quotidien qui se fait. Il y a des femmes qui se voilent du fait comme on se voilerait en Grèce ou bien dans le sud de l'Italie. Donc il y a voile et voile. Il y a des femmes qui décident, elles font vœu pieux envers le dieu qu'elles adorent et puis elles décident de faire. Donc moi, ce n'est pas les femmes voilées qui me choquent, ni les femmes soumises, parce que je crois en la femme et à un moment ou à un autre, elle se révolte.
Il y a d'ailleurs dans beaucoup de pays arabes des associations de femmes et des mouvements féministes qui sont très actives malgré le poids effectivement de la menace intégriste.
Oui, absolument. En Algérie, au Maroc, surtout au Maghreb actuellement, les femmes bougent. Elles viennent de créer une fédération des associations des femmes du Maghreb pour essayer de trouver une législation quant au statut de la femme ensemble par rapport à tout le Maghreb, puisque maintenant le Maghreb essaye de faire, donc le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, la Mauritanie, la Libye, je ne sais pas si elles vont y accéder, pour essayer de puisqu'elles disent qu'il faut une sorte de marché commun entre eux, économique, ferroviaire, etc. Essayons de faire un marché commun sur les lois qui gèrent le statut de la femme. Dans ces pays-là, ça serait... Et elles se battent beaucoup, elles se font des colloques. Et nous, ici, on n'est pas au courant de ces colloques. Ça serait intéressant d'avoir des dates et d'y aller pour y participer.
Je crois qu'on peut simplement préciser par rapport à l'agenda qu'il contient la liste des associations. Donc c'est aussi un outil d'information. Et on parlait auparavant des combats qui ont été menés au quotidien, des combats féministes. Eh bien, toutes ces dates, vous pouvez les retrouver puisqu'il y a une histoire dévoilée, même si c'est peut-être pas le voile qui est le problème. Mais enfin, il y a une histoire dévoilée avec qui commence en 1873 en Égypte avec l'ouverture de la première école pour les jeunes filles.
Voilà, alors maintenant, le chapitre suivant, vous allez le voir, chers auditrices et auditeurs, c'est tout à fait autre chose. Quand on tourne les pages au cours de l'année, on découvre parfois des informations très, très rigolotes et étranges par rapport peut-être à notre quotidien à nous, mais on va découvrir que c'est très intéressant de savoir ce qui se passe dans le monde arabe.
Épilation à la cire de citron. Pressez et filtrez un demi-citron, versez dans une petite casserole, ajoutez 15 à 17 morceaux de sucre avec un demi-verre d'eau, faites fondre à feu doux en remuant avec une spatule en bois jusqu'à l'obtention d'un caramel léger et perlé. Laissez tiédir, mouillez vos mains, prendre une cuillerée à soupe du mélange, travaillez la pâte avec vos doigts pour la rendre souple et élastique, étalez vers le bas avec le pouce sur 3 ou 4 cm de peau, retirez énergiquement vers le haut, ceci peut s'appliquer sur tout le corps. Note de la claviste, ne quittez pas votre casserole des yeux, ne répondez surtout pas au téléphone en pleine séance d'épilation, pompier garanti dans les 10 minutes.
Sakina, quelle est cette tradition de l'épilation pour les femmes du monde arabe ? Raconte-nous tout.
Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup choquée. C'est que quand j'étais au Moyen-Orient, il y a quelques années, toutes les femmes orientales, donc c'était au Liban, me disaient « Mais t'as pas honte, t'es pas épilée ?» Et puis, je disais que « Mais non, j'avais pas le droit, puisque ma grand-mère me disait que si je m'épilais, chacun de mes poils, je devrais marcher dessus en enfer, etc. que c'était interdit par notre religion. Et alors, ce qui était marrant en plus, c'est que au Maroc, au Moyen-Orient, donc au Liban, un homme n'est pas du tout attiré. Alors on me disait, mais tu vas pas te trouver de fiancée. Je disais, mais pourquoi ? Il me dit, mais tu te rends pas compte, t'es pleine de poils, il faut absolument les enlever. Les hommes ne regardent pas les femmes avec des poils. Sur les bras, partout, elles s'épilent complètement. Alors que chez nous, au Maroc, peut-être parce qu'on est de tradition berbère, au contraire, c'est plus on a des poils sur les jambes, plus on attire un homme, parce que c'est l'affirmation de notre sensualité. Alors j'ai toujours été prise, moi qui me revendique arabe, entre ces deux cultures. Alors bon, alors j'ai trouvé la solution. En été, je m'épile et en hiver, je ne m'épile pas.
Ouf, repos, c'est l'hiver, ça y est.
Mais c'est symbole de pureté depuis l'ancienne Égypte, paraît-il. Je ne savais pas. Et puis, il y a tout de même cette image de la femme, comme on dit, la femme lisse.
Mais c'est une contrainte épouvantable quand même. Pour celles qui doivent.
Ça fait mal.
Ça fait mal.
Ça fait mal. Parce que, bon, la recette, il ne faut pas que ça brûle quand il y a le téléphone qui sonne, mais sur soi, surtout, ça a l'air quelque chose. Hein. Mais bon, Sakina, cette recette, comme beaucoup d'autres, fait partie de ces pages de la vie quotidienne des femmes du monde arabe que l'on peut découvrir dans l'agenda Najma. Alors, pourquoi avoir proposé justement ces recettes ? En l'occurrence, ici, c'est une recette un peu particulière, mais il y a des recettes de cuisine aussi, donc que tu proposes tout au long des jours de l'année.
Mais pour connaître une culture, pour aller vers une culture, on ne peut pas connaître. Il faut tout connaître, il faut essayer d'approcher un monde inconnu, ou du moins méconnu, par toute sa vie quotidienne, en fait, par le tout, pour se poser moins de questions. Et pour. Moi, je trouve au contraire que, bon, Même les jeunes filles de l'immigration, de la communauté arabe, elles perdent des choses. Donc cet agenda ne s'adresse pas aux Européennes, il s'adresse en premier lieu à la communauté immigrée qui ne parle plus l'arabe, qui ne connaît pas ses origines, qui est confrontée quotidiennement à l'agression, à l'intolérance. Et elle ne peut répondre à cette, comme je disais, à cette agression, à cette tolérance qu'en s'acceptant elle-même et se connaissant. Alors on a inculqué à l'étranger la peur. Donc la peur, ça engendre le mutisme, le complexe d'infériorité. Donc le fait que des jeunes de la communauté commencent à connaître ou à s'intéresser à leur culture par la musique, par la cuisine, partout, ça revalorise leurs origines et ils peuvent mieux se défendre.
Et puis même, je crois que pour nous aussi, je crois peut-être que les femmes, d'une manière générale, sont plus proches du quotidien et que c'est aussi une manière d'aborder notre culture. Il y a les textes, il y a la culture avec un grand C, puis il y a aussi la culture qui est la manière de manger, les gestes qu'on fait, la manière de s'épiler, pourquoi pas. Et que peut-être les femmes ont une sensibilité plus ouverte, plus grande à ce type d'appréhension d'une autre culture, une appréhension plus sensible. ليست كالكلمات يأخذني من تحت ذراعي يزرعني في أحدى الغيمات والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات والمطر الأسود في عيني يتساقط زخات يحملني معه يحملني لمساء وردي الشرفات لمساء وردي الشرفات لمساء On a vécu si longtemps avec. La guerre rend les choses irréelles. Elle est plus forte que les papas. C'est pour vous dire. Les enfants s'en sont aperçus. Ils ont alors vite grandi. Quand les papas sont encore très forts, on prend son temps pour grandir. Cela arrange tout le monde. Les hommes sont heureux d'être si forts quelque part, et les enfants aussi. Mais là, les papas n'étaient plus des papas pour de vrai. D'ailleurs, on jouait tous à être ce qu'on n'était plus. Mais il y a une chose, les mamans, elles seules, ne jouaient pas vraiment. C'est-à-dire qu'elles étaient toujours des mamans, pour de vrai. Elles étaient, comment faisaient-elles ? Elles n'étaient pas seulement les plus belles, ce n'était plus très important, mais elles étaient plus fortes que tout, plus vraies que jamais. Les mamans continuaient à être douces, encore plus douces qu'avant. Elles étaient plus calmes. Elles avaient des robes de chambre, très amples, on pouvait s'y cacher. Elles chantaient plus souvent. Elles faisaient rire leurs enfants. Les mamans sont plus fortes que la guerre. C'est la seule chose que la guerre ne casse pas. Les enfants l'ont su, c'est pour cela qu'ils ont eu envie de grandir d'une façon si belle. Les mamans font naître tout le temps leurs enfants. Elles naissent tout le temps par eux.
Merci.
Comme dit Mejda Romi dans sa chanson Parole, nous offrons le soleil, nous offrons la vie. Et au Liban, au Moyen-Orient, malgré toutes les guerres que les femmes ont vécues, ont subi du moins, elles offrent vraiment la vie. Et Nada Mourazel Nasser est une femme extraordinaire parce qu'elle est psychologue et en même temps, elle a jamais quitté le Liban. Elle participe dans une revue qui s'appelle Chronique sociale libanaise et elle est professeure à l'école des éducateurs de Beyrouth.
Donc c'est la femme qui est l'auteur du texte que Nicole vient de nous lire.
Voilà. Et puis ce qui est extraordinaire dans cette région du Moyen-Orient, les guerres ont donné des femmes extraordinaires. J'ai du respect pour toutes les femmes. Et parmi des femmes extraordinaires, j'ai cité dans l'agenda Arna. Arna est aussi une maman de 6 enfants. Arna est une femme israélienne, juive, et c'est une maman de 6 enfants qu'elle a eu avec un Palestinien. Et ça fait 30 ans qu'elle est mariée avec ce Palestinien. Donc ça fait depuis 30 ans qu'elle lutte et qu'elle a compris la paix et qu'elle a compris ce que c'était de rejeter l'autre d'un espace qui est le sien. Et elle a compris que c'est en étant 2, 3, 1100 qu'on peut être les plus forts et construire. Et Arna construit depuis 20 ans, s'occupe des enfants palestiniens dans les camps de réfugiés, dans les territoires occupés notamment. C'est une femme qui a été bannie par l'État israélien. Elle a passé le plus longtemps de sa vie dans les prisons israéliennes parce que ça a été... Pour le gouvernement israélien, pour l'armée israélienne, c'est la femme qui a trahi l'État juif, puisqu'elle est juive.
Sakina, si un jour Laurence Dehaene a écrit un livre, La guerre à deux voix, qui montrait comment, au-delà d'une guerre, les femmes peuvent se rencontrer et parler face à la douleur qui les a unies à un moment donné. Toi, tu as réuni tous ces témoignages de femmes sur la guerre. Et Fawzia Assad, vous y avez contribué en écrivant aussi un texte sur la Bosnie. À première vue comme ça, vous n'étiez pas forcément destinée à écrire un texte sur la Bosnie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire ?
Écoutez, on nous a lancé dans plusieurs cercles depuis que nous existons. Enfin, depuis que l'Égypte est Égypte, a toujours été dans des cercles différents. Nous faisions partie de l'Europe avant la Révolution. Puis on nous a interdit de faire partie de l'Europe. On nous a dit qu'on faisait partie d'un cercle arabe, d'un cercle africain, d'un cercle de non-alignés. Et puis plus tard, on nous a dit aussi d'un cercle islamique et c'est vrai que nous sentons une solidarité avec ces femmes musulmanes de Bosnie, non seulement les musulmanes mais toutes les femmes en général et le sort des femmes bosniaques est un sort qui nous touche de très près. Ne pas parler des femmes bosniaques quand il s'agit du monde des solidarités du monde arabe, c'est impossible. Elles font partie dans la mesure où elles sont femmes, dans la mesure où elles sont musulmanes comme une bonne partie de notre peuple. Elles font partie de nous. Nous ne pouvons pas être indifférents à leur sort. Et puis, en plus, la Bosnie, c'est un pays multiculturel qui a été à un certain moment un petit modèle. Et c'est sur ce modèle que beaucoup de sociétés veulent se faire en Égypte ou ailleurs dans le monde arabe, la Palestine, l'OLP. Si on a été tellement attaché à l'OLP, c'est parce qu'ils préconisaient une société où la religion n'était pas, où on pouvait appartenir à n'importe quelle religion, sans distinction. C'était une société qui voulait se faire sur la communauté juive, musulmane et chrétienne. On a souvent tendance à oublier cet aspect de l'OLP.
Pourquoi vous dites c'était ? Vous n'y croyez plus aujourd'hui ?
On l'espère, mais on l'a oublié. On a un petit peu gommé cet aspect de l'OLP. C'est pour ça qu'on le rappelle.
Ah, d'accord.
On le rappelle, cet aspect de l'OLP. Il est très important. Il est très bon que l'OLP l'emporte sur le mouvement de Hamas. Parce que c'est un mouvement plurireligieux. Et la Bosnie est un pays plurireligieux. Et c'est lamentable de penser qu'on veut séparer, suivant les religions, les bosniaques. Moi, il y a quelque chose qui m'a choquée profondément quand je regardais, jusqu'à présent, ça me choque, quand je voyais les nouvelles à la télévision et qu'on voit des bosniaques musulmans, combien d'Européens ou de Suisses à côté de moi disent « Tiens, ils n'ont pas l'air musulmans !»
Mais ça me choque profondément. Qu'est-ce que ça veut dire être musulman? C'est venu de tous côtés. Ce sont des gens qui ont été obligés, qui se sont convertis pour des raisons ou une autre. Alors c'est là où j'ai commencé à vouloir faire une recherche. Pourquoi est-ce qu'on dit musulman à l'intérieur de la Bosnie? Ce sont des Croates et des Bosniaques. Ce ne sont pas des musulmans différents des Croates et des Bosniaques, ça me parle et des autres. C'est une situation pluri-religieuse, qui est pluriculturelle, qui a vécu en harmonie à un certain moment, qui a été aussi manipulée par les forces, par les puissances étrangères de façon scandaleuse. J'ai lu beaucoup de littérature pour voir à quel point les Français, les Anglais, les Austro-Hongrois ont joué les Autrichiens ont joué avec les différences ethniques pour les soulever les unes contre les autres. J'ai vécu moi-même l'endoctrinement catholique au pensionnat, parce que j'ai fait mon éducation dans un pensionnat, à quel point le catholique méprisait l'orthodoxe. Et quand je lis un texte comme celui de cet écrivain tchèque, Sierjanski, je suis étonnée de voir à quel point ça me rappelle des souvenirs, combien les catholiques et les orthodoxes se méfiaient les uns des autres, comment les catholiques voulaient convertir les orthodoxes au catholicisme. Je relis la chronique de Travnik, d'Andrić, et je retrouve la même chose. Nous avons vécu tout cela.
Mais je suppose, Fawzi Assad, que le sort des femmes bosniaques vous a aussi beaucoup touché, elles qui ont été les victimes d'une guerre sauvage, comme le sont souvent les femmes dans n'importe quelle guerre, dont on ne parle jamais, peut-être cette fois-ci, par quelle situation, on a su un peu plus que d'habitude que les femmes sont souvent les premières victimes de la guerre et entre autres victimes de viols absolument monstrueux, collectifs, intentionnels, calculés. Et cela apparaît aussi dans votre texte. Êtes-vous d'accord de nous en lire un petit bout, Fawzia ?
En Bosnie, une terre pauvre et montagneuse, où chaque champ recouvre un cimetière de temps révolu, les grands empires se sont succédés. La Bosnie fut romaine, ottomane, convoitée par la France napoléonienne, par l'Autriche impériale. Le catholicisme lui est arrivé par Venise, l'orthodoxie par l'Empire byzantin. Les Serbes sont plus proches des Slaves de Moscou. La Bosnie, un lieu de confrontation entre l'Orient et l'Occident. Quatre religions s'y sont côtoyées, chacune exclusive des trois autres. Leur centre spirituel était à mille lieues de leur ciel commun. Rome, Moscou, Constantinople, Jérusalem. Dans les récits historiques, les femmes bosniaques n'occupent aucune place. Les musulmanes bosniaques préfèrent se dire musulmanes plutôt que serbes ou croates. Et pourtant, serbes ou croates, elles le sont aussi. Elles appartenaient à la noblesse du pays ou à cette secte manichéenne, les Bogomiles, persécutées par les évêques d'alors. Elles se sont converties à l'islam lors de la domination ottomane. Bosniaques, et non pas turques, comme l'occupant, mais doublement occupés et soumis à l'homme et au pouvoir. Les violer pour humilier l'homme ou le pouvoir ou le dieu qu'elles adorent, au nom de quel dieu? Un dieu orthodoxe, catholique, communiste? Au nom de quel ordre sacré piétiner ainsi la femme qui donne la vie, elle le réceptacle du sacré?
Sakina chante avec la chanteuse. Qui est cette chanteuse, Sakina?
C'est Majda Romi, c'est une jeune femme extraordinaire, je trouve, qui chante beaucoup la paix et l'œcuménisme au Moyen-Orient, vraiment.
Alors Sakina, pour conclure notre émission, parce que malheureusement le temps s'envole toujours tellement vite quand on a des milliers de choses intéressantes à se dire, mais c'est vrai, t'as beau faire un le temps qui court, c'est quand même vrai. Eh bien, il faut arriver à la fin de cet échange. Chères auditrices et auditeurs, c'est à vous maintenant de découvrir ce qu'il y a dans l'agenda par vous-même. C'est vrai que le découvrir avec l'aide de Fawzia Assad, avec l'aide de Sakina Sherrad et de Nicole Duparc, c'est peut-être plus passionnant que tout seul chez vous, mais ma foi, c'est comme ça, il faudra vous faire à l'idée qu'elles ne seront pas toujours là pour vous raconter des histoires. Sakina, comment vas-tu maintenant distribuer cet agenda, le faire connaître, le faire acheter par le plus grand nombre de femmes et du monde arabe et chez nous? Parce que la distribution, c'est un problème, j'imagine, quand même.
Oui, c'est un gros problème quand on est à son compte d'auteur. Donc, je tiens à dire que cet agenda n'est financé, n'est subventionné par quiconque que par mon travail à 100%. Ça, c'est important à savoir. Que heureusement, cette année, une équipe de bénévoles m'a rejointe pour le confectionner, quoi, le produire. Et donc, c'est par une chaîne de solidarité, par un mailing de solidarité que la vente se fait. Et par la solidarité donc, de librairies comme la librairie arabe L'Olivier de la rue de Fribourg qui le vend. La librairie du boulevard aussi qui le vend. Et par des journalistes qui s'intéressent aux femmes aussi, qui en ont entendu parler, qui viennent, qui veulent savoir, qui font des papiers, je les remercie.
Comme dans le journal Elle, par exemple.
Oui, comme dans le journal Elle. Et puis, il y a une chose, je veux profiter de cette émission, on n'en a pas parlé avant, mais je tiens à remercier, vraiment à remercier toutes les copines, vraiment, de m'avoir soutenue dans cette folle aventure qui maintenant paraît plus folle, ne paraît plus folle, ça paraît quelque chose qui va, j'espère, continuer. Alors, achetez l'agenda.
Alors, on répète les lieux où, à Genève, pour l'instant, on peut trouver l'agenda. C'est la librairie du boulevard, la librairie de l'Olivier, qui se trouve à la rue de Fribourg, tu as dit.
Voilà. Et sinon, puis le commander en écrivant à Sakina Sherrad Édition, case postale 1281 1211 Genève 1.
Peux-tu répéter peut-être?
Bon, mon nom Sakina, S-A-K-I-N-A, Sherrad, C-H-E-R-R-A-D, case postale 1281 1211 Genève 1.
Nulle force au monde ne brisera les portes vivantes de mon pays, ni ne fera craquer la volonté de ses enfants à reconstruire encore et toujours un Liban défi, où l'arabe sera éternellement chrétien et musulman, et où les femmes seront les plus surprenantes dans leur liberté obstinée.
Je vous donne aussi le nom de quelques-uns des livres écrits par Fawzia Assad, écrivaine égyptienne, je vous le rappelle, et avec qui nous avons échangé de grands propos. Eh bien, elle a écrit par exemple « Des enfants et des chats » que vous trouvez aux éditions Pierre-Marcel Favre à Lausanne, ou bien « L'égyptienne » aux éditions Mercure de France, ou « La grande maison de Louxor » aux éditions L'Armata. Fawzia Assad. «